Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans le financement de la formation professionnelle en France pour 2025. Alors oui, ça peut faire un peu peur, on dirait un labyrinthe administratif, mais promis, on va décortiquer ça ensemble. L'idée, c'est de voir comment transformer tout ça en vraies opportunités, que ce soit pour acquérir une compétence, évoluer dans son job ou même, pourquoi pas, changer complètement de voie. Des solutions existent. Et pour nous aider à y voir plus clair, on s'appuie sur une super ressource, un guide vraiment pratique tout frais, mis à jour au 1er octobre 2025. Il vient d'un acteur du terrain, Nets Informatique à Haguenau, et leur but, c'est justement de démystifier tout ça. Alors, notre mission du jour, si on peut dire, c'est de comprendre qui peut avoir quoi, comment on peut combiner les aides intelligemment et surtout identifier les bonnes stratégies pour financer son projet. Sans oublier les nouveautés importantes de cette année, bon ben, on est parti, on analyse ça en profondeur. C'est vrai que ce secteur de la formation, ça bouge tout le temps. C'est dynamique, mais ouais, des fois, un peu dur à suivre. Commençons donc par ce qui est vraiment nouveau en 2025, les points clés à avoir en tête.
Oui, tout à fait. Le paysage change pas mal. Bon, déjà, un changement qui date de début 2024, mais qui est fondamental. Pôle emploi, c'est devenu France Travail. C'est pas juste le nom qui change, hein. L'idée derrière, c'est vraiment un accompagnement plus intégré, plus coordonné, pour les personnes et aussi pour les entreprises. Ensuite, il y a une clarification importante pour les formations juste avant l'embauche. L'AFPR, l'action de formation préalable au recrutement, elle a été absorbée par la POEI, la préparation opérationnelle à l'emploi individuel. L'objectif, c'est la simplification, un seul dispositif principal pour se former avant de signer son contrat. Le gros avantage, c'est que les conditions sont un peu plus souples et la durée peut être plus longue, donc plus de flexibilité pour acquérir ce qui manque. C'est une bonne chose, ça rationalise.
Et puis, il y a ce point qui a fait beaucoup parler, la participation forfaitaire obligatoire quand on utilise son CPF, le compte personnel de formation. Ça risque de bousculer pas mal de projets, non ?
Ah oui, ça c'est le point sensible de 2025. Cette participation de 102,23 €. Alors, attention, faut regarder les détails, c'est ça qui est crucial. Il y a deux cas principaux où on est exonéré. D'abord, les demandeurs d'emploi. Eux, ils n'ont rien à payer. Et deuxièmement, et ça c'est hyper important stratégiquement, les salariés dont la formation est cofinancée, soit par l'employeur, soit par un OPECO. Et là, c'est pas juste 102 € d'économiser. Ça veut dire que si l'entreprise ou la branche met aussi la main à la poche, pour le salarié, ça reste gratuit. Donc ça pousse à discuter de son projet CPF en interne, quoi. Ah, et puis on peut noter aussi un petit changement de nom, mais c'est plus technique. La rémunération des demandeurs d'emploi en formation, l'ancienne RFPE, devient la RFFT, rémunération de formation de France Travail. C'est logique avec le changement de nom de Pôle emploi, en fait.
D'accord, donc le cadre est posé. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, les dispositifs eux-mêmes. Et on commence logiquement par la base pour tout le monde, le CPF.
Exactement, c'est la pierre angulaire du système. Le CPF, c'est ce droit à la formation qui vous suit, qui suit la personne toute sa vie active. Peu importe si on change de boulot, de statut, ça reste attaché à la personne. Il est alimenté chaque année, automatiquement, en euros. C'est 500 € par an pour la plupart des salariés à temps plein, plafonné à 5 000 €. Et pour les personnes qui ont moins de qualifications, disons niveau CAP, BEP ou moins, ou pour les personnes en situation de handicap, c'est mieux. 800 € par an avec un plafond à 8 000 €. C'est vraiment un droit individuel fort.
Et on en revient à cette participation de 102,23 €. C'est quand même pas anodin. Est-ce qu'on sait un peu pourquoi ce montant, pile 102,23 €? Et surtout, le risque, c'est pas que ça freine un peu les gens?
Mais l'idée affichée, c'est de responsabiliser un peu l'utilisateur. Et puis de contribuer au financement global du système CPF. Le montant, lui, est forfaitaire. Il est indexé. Quant à l'impact, c'est là où les exonérations sont super importantes. Pour un demandeur d'emploi, hop, pas de changement. Pour un salarié, oui, ça peut freiner s'il est seul à financer. Mais ça peut aussi l'inciter à négocier avec son employeur pour chercher un cofinancement et du coup éviter de payer la participation. Donc, stratégiquement, le CPF, faut le voir comme un super point de départ, mais pas forcément la solution complète à lui tout seul. Très souvent, le solde CPF ne suffit pas pour payer toute la formation, surtout si c'est long ou très spécialisé. Et c'est là qu'intervient un mot-clé, l'abondement. C'est plus qu'un simple complément d'argent. Obtenir un abonnement, que ce soit de France Travail, de l'employeur, d'un OPECO ou de la région, c'est aussi une sorte de validation du projet. Du coup, mobiliser son CPF, même si c'est juste pour une partie, ça devient la clé pour débloquer d'autres financements. C'est un vrai effet de levier. Faut bien comprendre ça.
Prenons l'exemple de Sophie dans notre source. Elle est demandeuse d'emploi. À Haguenau, elle veut devenir gestionnaire de paix. La formation coûte 3000 euros. Elle, elle a 1500 euros sur son CPF. Sa démarche est intéressante. Elle utilise son CPF, normal, via la plateforme. Comme elle est demandeuse d'emploi, pas de participation à payer pour elle. Nickel. Mais il manque 1500 euros. Alors, elle demande une AIF, une aide individuelle à la formation, à France Travail, et hop, c'est accepté. Ce que le guide souligne, c'est l'importance de l'organisme de formation, ici NEZ, qui l'a aidé à monter le dossier, à avoir le bon devis pour l'AIF. C'est typique. CPF plus AIF. Justement, cette AIF, c'est un des outils de France Travail pour les demandeurs d'emploi. Il y a quoi d'autre d'important de leur côté ?
Oui, l'AIF, c'est vraiment central pour France Travail. Elle peut venir en plus d'un autre financement, comme pour Sophie avec son CPF, ou alors elle peut financer toute la formation s'il n'y a vraiment aucune autre solution, et si, bien sûr, la formation est jugée essentielle pour retrouver un emploi. Le montant peut aller jusqu'à 8000 euros, mais ce n'est pas automatique, hein. C'est après étude du projet par le conseiller France Travail. Et point très important, pour demander une AIF, il faut absolument que l'organisme de formation crée un devis sur la plateforme Kairos. Ce devis apparaît ensuite dans l'espace personnel du demandeur d'emploi qui doit le valider. C'est une étape clé, on ne peut pas y couper.
D'accord. Et après, il y a la POE, la préparation opérationnelle à l'emploi. Là, ça devient super concret. On forme quelqu'un pour un poste qui l'attend déjà. Ça, ça a l'air d'être un dispositif vraiment gagnant-gagnant.
C'est exactement ça. Alors, il faut bien distinguer la POI, l'individuel, de la POEC, la collective. La POI, donc, qui a intégré la FPR, c'est très direct. Une entreprise trouve un candidat qui l'intéresse. Mais, oups, il manque quelques compétences spécifiques pour le poste. L'entreprise dit « Ok, je m'engage à l'embaucher en CDI ou en CDD d'au moins 6 mois ou même en alternance, mais à condition qu'il suive cette formation avant. » Et cette formation, c'est la POI. Elle peut durer jusqu'à 450 heures. Voire même 600 heures dans certains cas précis. C'est pas rien, hein, 450 ou 600 heures, ça permet vraiment d'acquérir des compétences solides. Et c'est financé par France Travail, et souvent aussi par l'OPCO de l'entreprise.
Attendez, 600 heures, ça fait presque 4 mois de formation à temps plein. C'est fréquent ça, que des boîtes s'engagent à embaucher si longtemps à l'avance, avant même que la personne soit formée ?
C'est un engagement fort, oui, c'est vrai. Mais imaginez pour des postes très techniques, ou des métiers où on a du mal à recruter. Pour l'entreprise, c'est une super stratégie. Elle trouve un candidat motivé, elle le forme pile-poil à ses besoins, elle sécurise son recrutement. L'exemple donné dans la source, la PME de logistique à Célesta, il est très bon. Il galérait à trouver un profil avec des compétences en Power BI, en SQL. Introuvable. Il repère Jean, demandeur d'emploi. Il monte une POEI de 350 heures avec Nets Informatique. Jean se forme, une partie directement dans l'entreprise. Résultat ? Jean a son CDI et l'entreprise a son expert. C'est un investissement, certes, mais ça résout un vrai problème pour eux. Et à côté de ça, il y a la POC, la collective. Là, c'est plutôt les OPCO qui organisent pour former des groupes entiers de demandeurs d'emploi sur des métiers en tension dans une région. Par exemple, des soudeurs, des développeurs, en lien avec les besoins de plusieurs entreprises du coin.
Très clair. On a fait le tour du CPF pour tous et des outils France Travail pour ceux qui cherchent un emploi. Mais quid des salariés, ceux qui sont déjà en poste ? Ils ont quoi comme carte en main pour évoluer ou même pour changer de cap ?
Alors, pour les salariés, il y a plusieurs options avec des logiques différentes. Le dispositif le plus connu pour les gros changements, les reconversions, c'est le PTP, Projet de Transition Professionnelle. C'est un peu le successeur de l'ancien CIF, pour ceux qui s'en souviennent. Ça permet à un salarié de prendre un congé, en fait, pour suivre une formation longue, certifiante, avec l'objectif de changer de métier. Et le gros avantage, c'est le maintien de la rémunération pendant la formation. C'est ça qui rend possible les projets de reconversion vraiment ambitieux. Bon, évidemment, il y a des conditions. Il faut une certaine ancienneté dans l'entreprise, et surtout, il faut monter un dossier béton. Il faut bien argumenter son projet, montrer qu'il est sérieux, cohérent. Et ce dossier, il faut le soumettre à l'association Transition Pro de sa région. Transition Pro Grand Est, par exemple. Si le dossier passe, l'organisme finance les frais de formation et la rémunération. En totalité ou en partie, ça dépend. L'exemple de Marc, 42 ans, commercial à Strasbourg, qui veut devenir développeur en intelligence artificielle, c'est une super illustration. Quel saut ! Il trouve une formation de 8 mois, il a l'accord de son employeur pour s'absenter, et il obtient le financement de Transition Pro Grand Est, avec 90% de son salaire maintenu. Il réussit, il change de vie. Franchement, le PTP, c'est l'outil des transformations profondes.
Ah oui, passer de commercial à développeur IA, c'est une sacrée bascule. Ça montre bien la force du truc. Et à part le PTP, il y a quoi d'autre pour les salariés?
Une autre option intéressante, mais dans un esprit différent, c'est la ProA, reconversion ou promotion par l'alternance. Ça vise plutôt les salariés, souvent ceux qui ont un niveau de qualif inférieur à Bac plus 3 et qui veulent évoluer dans leur entreprise. Ou se reconvertir, mais toujours en interne. La formation se fait en alternance, donc on continue de travailler en partie, et c'est financé par l'OPCO de l'entreprise. L'idée ici, c'est la mobilité interne, la fidélisation des talents. C'est très différent du PTP, où souvent on change d'employeur à la fin. Après, il y a le classique plan de développement des compétences, le PDC. Là, c'est l'employeur qui décide des formations, c'est pour adapter les compétences des salariés aux besoins de l'entreprise, à l'évolution des métiers. Pour les petites boîtes, les TPE-PME de moins de 50 salariés, l'OPCO peut aider à financer ce plan. Mais c'est plus de l'adaptation que de la révolution. Et puis, il faut mentionner transition collective, ou transco. C'est plus spécifique. C'est pour les salariés dont l'emploi est menacé, à cause de mutations économiques. On leur propose des parcours de reconversion vers des métiers qui recrutent sur le territoire. C'est sécurisé, financé par l'État via Transition Pro, et le salaire est maintenu. C'est un peu un filet de sécurité collectif.
Déjà un bon panorama, mais la source qu'on a, elle parle aussi d'autres pistes d'aide complémentaires. Elle se situe où, celle-là?
Oui, il ne faut pas oublier d'autres ressources. Par exemple, les régions. Comme le Grand Est, elles peuvent avoir leurs propres aides, souvent ciblées sur des secteurs qu'elles jugent prioritaires ou pour aider à la mobilité géographique. Il y a aussi France VAE, la validation des acquis de l'expérience. Ça a été réformé récemment pour que ce soit plus simple de faire reconnaître officiellement les compétences qu'on a acquises sur le terrain, sans forcément avoir le diplôme. C'est une autre voie. Pour les travailleurs handicapés, il y a l'AGFIP. Ils ont des aides spécifiques pour la formation, l'adaptation du poste de travail, qui peuvent être vraiment conséquentes. Et puis, il faut garder un œil sur les grandes priorités nationales. Le plan France 2030, par exemple, met beaucoup d'argent, 2,5 milliards d'euros, sur les compétences d'avenir, le numérique, l'IA, la cybersécurité. D'ailleurs, ce sont des domaines où Nets Informatique, notre source, est justement positionnée.
D'accord. Bon, face à tout ça, tous ces sigles, AIEF, POI, PTP, CPF, les plateformes comme Kairos, concrètement, comment on fait pour s'y retrouver? Pour monter un dossier qui tienne la route et qui ait une chance d'être financé, c'est quoi les pièges à éviter?
C'est la question. Et la réponse, très souvent, c'est l'accompagnement. C'est déterminant. Que ce soit le conseiller France Travail, un conseiller en évolution professionnelle, le CEP, c'est un service gratuit, ou même l'organisme de formation lui-même, comme le décrit Nets pour son propre rôle. Cet accompagnement, ça va plus loin que juste donner de l'info. D'abord, ça aide à bien poser le diagnostic. C'est quoi mon projet exactement? Est-ce que je suis éligible à telle ou telle aide? Comment les combiner au mieux? Ensuite, il y a toute l'aide pour le montage administratif. Obtenir le fameux devis au format Kairos, si besoin. Rédiger l'argumentaire pour un PTP. Vérifier qu'on a bien tous les prérequis. C'est souvent là-dessus que ça coince. Il faut aussi quelqu'un qui fasse le lien avec les financeurs. France Travail, l'OPCO, comme Atlas pour le numérique par exemple, Transition Pro. Chacun a ses règles, ses délais, qui peuvent être longs d'ailleurs. Faut être persévérant. Et un point absolument vital, toujours vérifier que l'organisme de formation qu'on choisit a bien la certification Calliope. Sans ça, c'est simple, la plupart des financements publics sont bloqués. C'est un gage de qualité obligatoire. Au-delà de l'administratif pur, il faut aussi savoir vendre son projet. Montrer qu'il est cohérent, qu'il a du sens pour son parcours ou qu'il répond à un besoin du marché du travail. Et pour les entreprises, savoir utiliser les POI, la PROA, le PDC, ça devient un vrai levier stratégique pour gérer les compétences en interne.
Ok, donc si on essaye de résumer tout ça, le système français de financement, bon oui, il est complexe, on va pas se mentir, mais en même temps, il est incroyablement riche, il offre des solutions pour quasiment toutes les situations en fait. Qu'on soit demandeur d'emploi, salarié qui veut monter en grade ou qui veut carrément changer de vie, il y a des portes qui s'ouvrent. Le truc, c'est de bien connaître les dispositifs clés, le CPF avec sa participation, l'AIFE, les POE, le PTP, et d'avoir en tête les dernières nouveautés.
C'est exactement ça, absolument. La clé, c'est vraiment l'information et la préparation, se renseigner activement, bien comprendre à quoi on a droit, anticiper les étapes administratives comme Kairos, ne pas se laisser décourager par les délais et surtout, surtout, ne pas hésiter à demander de l'aide, des conseils personnalisés. Si on prend un peu de recul,
On voit bien que monter un bon dossier de financement, c'est pas juste de la paperasse. C'est ce qui permet de concrétiser une ambition, de passer d'un projet à une nouvelle carrière.
Et tout ce qu'on vient de dire, ça amène une réflexion finale peut-être. On voit bien comment l'accès à la formation est facilité, y compris pour des compétences très pointues, très demandées. Le numérique, l'IA, la cyber, on en a parlé, soutenu par France 2030. Au-delà des parcours individuels qui sont transformés, et c'est déjà énorme, on peut se demander, cet investissement massif dans les compétences qu'on rend accessible grâce à ces financements, comment est-ce que ça pourrait, à moyen ou long terme, remodeler en profondeur notre économie, notre paysage de compétences, ici au niveau local ou régional ? Voilà qui conclut notre exploration du financement de la formation pour 2025. Merci beaucoup de nous avoir suivis.